les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
Momentanément vide, calme, pour quelques instants encore, la place de la Concorde petit matin offre une poésie insoupçonnée, nichée entre les Tuileries, la Seine et les jardins des Champs-Élysées. Au centre de cette place trône depuis près de 200 ans l'obélisque de Louxor, offerte par le vice-roi d'Égypte Mohamed Ali au roi de France Charles X. Je tiens à la main une photo un peu vieillie de Oum Kalthoum, prise justement au pied de cet obélisque. La grande diva égyptienne, en tailleur Chanel rose fuchsia, est reconnaissable entre mille avec son chignon de jais et ses lunettes noires. Elle pose de trois quarts, légèrement conquérante en contre-plongée. Double ration de monuments égyptiens dans la capitale française.
Le Paris arabe. Premier épisode. Oum Kalthoum à l'Olympia. Quand l'astre de l'Orient rencontre la ville lumière.
Interrogée par la télévision égyptienne sur son monument préféré, dans la suite du George V où elle est logée, Oum Kalthoum n'a qu'une réponse. L'obélisque, parce qu'elle appartient à l'Égypte. Des clichés d'Oum Kalthoum à Paris, il y en a. Au gré de ses nombreuses visites pour congés ou concerts privés. Devant l'Arc de Triomphe, dans le jardin du Luxembourg. Difficile de distinguer parfois entre la simple touriste ravie d'étoffer l'album photo de ses vacances et l'icône de tout un peuple soigneusement mis en scène. Si elle apparaît invariablement seule, combien sont-ils hors cadre à la scruter ? Malgré les sourires immortalisés, l'heure est grave en cette journée ensoleillée de novembre 1967. Les deux concerts prévus de longue date à l'Olympia ont pris une tournure politique. Au mois de juin précédent, la guerre des six jours contre Israël a vu les armées arabes défaites et davantage encore de Palestiniens jetés sur les routes de l'exil. Du côté de la diplomatie française et de l'Élysée, l'événement a soigneusement été préparé dans le but de rapprocher les présidents de Gaulle et Nasser. Initialement une coquetterie, la demande d'Oum Kalthoum d'obtenir de Bruno Cocatrix son plus grand cachet jamais offert se transforme en geste fort de soutien à l'armée égyptienne, à qui il est intégralement reversé. Et Paris, première capitale occidentale où se produit l'astre de l'Orient, devient la fenêtre par laquelle la chanteuse, voix de millions d'êtres sans voix, exprime au monde sa douleur et sa résilience face aux rêves perdus.
والله دي أمنية كل فنان إنه يجي في بلد الفن الأصيل فرنسا.
Quand on demande à la chanteuse ce qu'elle pense de Paris, cette dernière répond que non seulement la ville lumière est plus belle en réalité, mais qu'en plus, le rêve de tout artiste est de se rendre dans le pays de l'art véritable, la France. Si Oum Kalthoum rêvait ainsi de Paris, le contraire était-il vrai ? La foule qui l'attend à son arrivée à l'aéroport d'Orly est modeste, composée essentiellement de correspondants des journaux arabes accrédités dans la capitale. On la voit, fichue sur la tête, en gros manteau d'astrakhan, multipliée mou et haussement de sourcils, aux côtés du journaliste Jean-Pierre Nkiri, qui la présente aux téléspectateurs français.
Oum Kalthoum, c'est une idole. C'est l'idole de 80 millions d'Arabes, du Maroc jusqu'à l'Arabie saoudite.
Interviewée par la future grande figure de France Culture, née par ailleurs au Caire de parents libanais et réfugiée en France suite à la révolution des officiers libres, la diva se mue soudain en petite fille, jetant des regards timides à son interlocuteur. Oum Kalthoum a beau être habituée à des réceptions dignes d'un chef d'État, émerge soudain dans son sourire celui de la petite paysanne du delta du Nil qui réalise un rêve.
S'il y a une chanteuse qui compte, s'il y a une artiste qui compte, c'est Oum Kalthoum. Mais Om Kulthum aussi, c'est presque une institution, c'est un phénomène.
...28 boulevard des Capucines, 9e arrondissement. Il est près de 20h et la foule, qui patientait dehors depuis un moment, commence à entrer à l'Olympia. C'est Charlotte Cardin, chanteuse pop québécoise, qui se produit ce soir. À chaque fois que je viens ici, le hall me paraît plus petit que je ne l'imaginais. Trop étroit, trop suranné peut-être par rapport au mythe qu'il suscite. Aujourd'hui, le sol est recouvert de moquettes, mais sur une autre photo, prise un de ces deux soirs de novembre 67, on y voit de la mosaïque, foulée par deux jeunes femmes en tenue traditionnelle soudanaise. Avant cette fameuse interview avec Jean-Pierre Nkiri à l'aéroport d'Orly, les billets pour les deux récitals à l'Olympia peinaient à se vendre.
J'étais allé en Égypte pour former une troupe égyptienne qui représente ce pays.
Bruno Cocatrix.
Et quand je suis arrivé au Caire, un jour, le ministre en question me dit « Mais pourquoi vous n'engagez pas Om Kulthum ?»
Directeur de l'Olympia.
Je dis « Je veux bien, mais qui est-ce » Et j'étais persuadé que c'était une danseuse du ventre. Je ne voyais pas très bien, j'avais jamais entendu parler d'elle. Alors, il me dit « Mais c'est une grande chanteuse. Une chanteuse, c'est la descendante en ligne directe de Mahomet. Elle chante une fois par mois au Caire et on loue 2 ans à l'avance sa place. D'ailleurs, un musulman va à la Mecque et vient voir Om Kulthum. »
Une fois la présence confirmée à Paris de celle que l'on appelle la 4e pyramide, c'est l'hystérie. Des charters sont affrétés de Marseille, Londres, Genève, voire même de l'autre côté de la Méditerranée. On dit même qu'un émir, dont les millions de francs posés sur le comptoir n'ont pas eu l'effet escompté, a menacé d'un pistolet la guichetière pour obtenir une place, avant que le directeur de l'Olympia ne lui attribue gracieusement un strapontin. Nul doute qu'il s'est retrouvé, peut-être pour la première fois de sa vie, à côté d'ouvriers algériens, tunisiens et marocains venus équipés de leur casse-croûte, mais aussi de juifs séfarades récemment arrivés en France. Tous unis dans une communion quasi sacrée.
Que pensez-vous de cet accueil du public parisien ?
Je suis très touché de l'accueil que m'a réservé Paris. Je remercie la presse, la radio, la télévision et tous les journalistes.
C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe.
Écrit et raconté par Colin Housset.
Réalisation Making Waves.
Pour en savoir plus, découvrez l'ouvrage Paris en lettres arabes de Colin Housset, publié chez Actes Sud en mai 2024.
Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.